Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
C'est un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour, le festival de Cannes 2020 n'a pas eu lieu, mais il nous gâte avec les 56 films qu'il a décidé d'accompagner en salle. Alors des salles qui sont plutôt mal en point en ce moment, mais pas une semaine hein, sans qu'il y en ait un représentant de ces films. Et pour cette semaine, eh bien, c'est au moins de 3 films estampillés Cannes 2020 dont nous allons parler. Et tu en as vu un toi Manu, bonjour.
Bonjour, oui, Last Words de Jonathan Nossiter qui avait un peu disparu des radars depuis quelques années.
Et puis Marine en a vu un autre, Drunk de Thomas Vinterberg et Guillaume un dernier, la suite de Dernier Train pour Busan. On jouera aussi un blind test à l'occasion de la sortie de Manhunter, film de Michael Mann dont tu nous parleras Manu. Et puis on écoutera eh bien, 5 films du réalisateur américain dont il faudra découvrir le titre, ça c'est l'objectif du blind test. Mais on débute avec un film alors pas du tout cannois, burlesque et poétique, à charge contre la police et l'administration, c'est Adieu les cons d'Albert Dupontel.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations?
Cinérama.
Oui, oui, oh, ça va.
Madame Trappa, Madame Trappi, Madame Trappo.
Trappé.
Madame Trappé. Les sprays que vous utilisez dans votre profession ont esquinté vos cellules bronchiques et du coup, vos anticorps ne les reconnaissent plus.
Et pourquoi ils font ça, mes anticorps?
Ils voient les cellules esquintées, ils ne les reconnaissent pas, ils les trouvent suspects. Allez, hop, dehors. C'est comme la police, quand elle se trompe, ça fait des dégâts.
Ils sont bêtes, mes anticorps.
Ma métaphore sur la police n'était pas tout à fait innocente.
Après avoir mis à l'écran une œuvre littéraire doublée d'un long métrage historique où pullulaient décors et costumes dans Au revoir là-haut, Albert Dupontel revient au film Tout fait maison. On passe de l'au revoir alors à l'adieu, l'adieu au con. Un film qui a une dent contre la police, on vient de l'entendre, une autre contre l'administration et fatalement contre les cons, ou plutôt un système. Alors d'un côté, on a Suze, une femme, la quarantaine, dont on ne sait à peu près rien, interprétée par... Virginie Efira, si ce n'est qu'elle est coiffeuse et qu'elle a respiré beaucoup trop de lac au point que sa santé vacille. Alors elle va mourir d'excès permanente, comme elle le dit. Et puis de l'autre, eh bien, on a JB, un quinquagénaire solitaire, excellent hein, dans le domaine de la sécurité informatique et qui n'attend qu'une chose, que son talent lui apporte une promotion dans l'administration. Oui, mais on préfère un jeune, ce qu'il prend très mal au point de dire adieu, mais surtout adieu les cons.
Alors, monsieur Cuchor, Cuchasse,
monsieur Cuchesse.
Voilà. Le ministère souhaite que la réorganisation des services soit confiée à quelqu'un de plus...
Plus compétent?
Non.
Plus jeune?
Non. Enfin, si.
Vous m'avez dit que je prends la direction de la zone nord, M. Kurzman.
Oui. Mais en fait... Non.
À la faveur d'un acte que JB va vouloir irrémédiable, eh bien, ces deux personnages vont se rencontrer. Alors, au départ, pas convaincu, JB va aider Suze à retrouver l'enfant qu'elle n'a jamais élevé, car elle l'a eu à 15 ans et ses parents l'ont forcé à l'abandonner.
Il n'existe aucune trace de votre accouchement. Puis retrouver un enfant abandonné sous X depuis 30 ans, c'est très difficile.
À ce point?
Oui, ça c'est normal. Hein. Donner ses données, reprendre ses volets.
Tu m'excuses, mais je trouve ça trop injuste.
Quoi, on peut rien faire alors?
Ça peut prendre du temps.
Mais c'est-à-dire, j'ai un souci de santé.
Si vous êtes pressé, on s'en sort plus.
Excusez ma grossièreté. Adieu les cons.
Le fruit de cette rencontre est un enchaînement de scènes où le burlesque et l'absurde dominent. Alors c'est du Buster Keaton matiné de Terry Gilliam, même si le film est plutôt dédié à Terry Jones, hein, le Monty Python. Terry Gilliam y fait un caméo, comme cela arrive fréquemment dans les films de Dupontel. Et d'ailleurs, le réalisateur français se revendique de Brésil pour le côté kafkaïen et la vision d'un monde qui advient. Alors on y retrouve effectivement ces ingrédients, bien que Dupontel joue davantage sur le burlesque auquel il adjoint des moments dramatiques. Alors il est quand même question de quelqu'un qui n'a que quelques temps à vivre et d'un autre qui se refuse à vivre. La critique du monde kafkaïen est plutôt frontale que graphique. Cela passe par de réelles complications administratives ou politiques que seule l'informatique parvient à dépasser. Et en maîtrisant la sécurité informatique, JB, interprété par Albert Dupontel, parvient à prendre la place d'un démiurge à plusieurs reprises, ouvrant les portes de voitures, pilotant les ascenseurs, consultant la vie de n'importe quel individu à partir du moment où on lui donne un nom. Des automatismes déconcertants dans une société qui n'a plus de capacité à aimer. Mais voilà un des thèmes d'Adieu les cons.
Madame Trappé, dans toutes les brunes à tempérament,
elle cherche la vie, l'énergie du positif.
Elle cherche surtout son gamin.
Et là encore, c'est une quête d'amour.
Je t'aime. Ce sont les mots les plus importants à dire dans une vie.
Le propos politique n'est pas frontal, mais il existe. Hein. Outre la critique de la société ultra-moderne et numérique, c'est aussi celle du jeunisme qui nous est donnée. Par ailleurs, on n'échappe pas aux clichés, avec des bêtes en informatique forcément incompétents à exprimer leurs sentiments. Alors c'est peut-être là la faiblesse d'Adulécon, de vouloir édulcorer la fable à nard avec un peu trop de sentiments, de sacrifier le pamphlet, une poésie trop lisse. Mais Dupontel est ainsi un fou radical. Ce n'est plus le réalisateur de Bernie qui réalise maintenant des films, mais un cinéaste capable d'être un bon faiseur d'images. Il y a de très bonnes idées de mise en scène, comme toujours chez Dupontel. On a droit à une image jaunie à la manière d'un film coréen, mais plutôt là d'un conte. Ce film parle du temps perdu, du temps présent, du temps qui file, de l'avenir qu'on se réserve. Mais à bien y réfléchir, ce Dupontel de 2020 fait un clin d'œil au Dupontel de Bernie. La première séquence du film est un tacle à la police. On en a écouté un court extrait parce qu'il a été condensé dans les teasers proposés par le distributeur. Et on se souvient maintenant de Bernie.
Sales enculés, c'est bien foutu leur combine.
La société qui est bien foutue. Elle met des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître.
C'est ça.
Alors, de Bernie, on peut aussi retrouver la quête de la paternité, une thématique récurrente dans la filmographie de Dupontel. Pour voir ce nouveau Dupontel, il suffit d'aller dans les salles. Le film y est présent depuis le 21 octobre. Tragédie comique ou comédie tragique sur les bienfaits ou les méfaits de l'alcool. Alors on ne sait plus. C'est Drunk de Thomas Vinterberg et c'est Marine qui nous en parle.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
Quatre amis professeurs qui aussi entre la quarantaine fatigués et la cinquantaine un peu perdus décident un soir de tester une étrange théorie philosophique selon laquelle il manquerait en permanence l'équivalent de 2 verres d'alcool dans le sang des humains pour être tout à fait heureux et bien dans leur peau. Pour remédier à leur mélancolie, les quatre amis décident donc de boire pendant la journée uniquement, jusqu'à 20 heures seulement, comme le faisait Hemingway, afin de tester l'effet de l'alcool sur leurs inspirations, sur leur travail, sur leurs relations humaines. Dans un premier temps, l'expérience fait son effet. L'un retrouve le plaisir d'être professeur, l'autre retrouve la complicité conjugale qu'il avait perdue. Mais naturellement, la gueule de bois ne va pas tarder à se faire sentir. Nul doute que si le festival de Cannes 2020 s'était tenu de façon habituelle, Drunk, retenu en sélection officielle, ne serait pas reparti de la croisette les mains vides. Tant le nouveau film de Vinterberg signe le grand retour du cinéaste danois, déjà habitué au tapis rouge puisque récompensé pour Festen en 98 et pour La Chasse en 2012. Dans La Chasse, Mads Mikkelsen interprétait un instituteur pris au piège d'une fausse accusation de pédophilie. Ici, il intègre à nouveau le corps enseignant et prête son physique si reconnaissable à un personnage de professeur dépassé. En plaçant son film au cœur de son pays, le Danemark, dont beaucoup de traditions tournent autour de l'alcool, Vinterberg pointe du doigt sans fausse morale ni hypocrisie l'impact de l'éthanol dans nos vies et n'hésite pas à user du sarcasme en intégrant à son film des images de dirigeants politiques ivres lors de meetings, d'interviews et de discours. Mais il n'est pas pour autant réellement question ici de réfléchir sur la consommation d'alcool occidentale et masculine, mais davantage sur l'humanité et sur la recherche d'intensité qui fait que l'humain peut ainsi basculer d'une consommation festive à un alcoolisme problématique. Là où Drunk est d'une intelligente modernité, c'est qu'il ne divise pas les hommes et les femmes en montrant d'un côté une bande de potes à la recherche de leur liberté perdue et de l'autre, leurs femmes confinées dans le foyer familial. Le couple n'est pas montré comme une prison, mais comme un partenariat salvateur que l'on cherche à sauver, non pas par convention, mais par amour. Et bien qu'elle soit finalement assez prévisible, la fin du film nous offre un dénouement sans fausse morale, plus ambigu qu'il n'y paraît, à travers une scène finale lumineuse, jouissive, en forme de véritable ode à la vie.
Drunk de Thomas Vinterberg est dans les salles depuis le 17 octobre. C'est une ressortie dont nous allons parler maintenant, Manhunter de Michael Mann, film d'abord édité en 87. Et ce film dont tu vas nous parler maintenant, Manu, va nous donner l'occasion de jouer à un blind test.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Tu crois que je te relancerais si j'avais pas besoin de toi ? Ce gars-là agit selon un cycle lunaire. J'ai 3 semaines et quelques jours de sursis jusqu'à la pleine lune. Nous améliorerons nos chances en faisant vite. Si toi tu marches,
Alors la Dent Vislard est le surnom du serial killer là, qui agit donc les soirs de pleine lune de Manhunter, reprise d'un film mal aimé à sa sortie qui a gagné avec le temps un statut culte auprès des cinéphiles, même s'il reste encore méconnu du grand public, éclipsé, il est vrai, par le Silence des agneaux, pourtant réalisé 5 ans plus tard. D'ailleurs, absurdité des ressorties, les distributeurs n'ont rien trouvé de plus judicieux que de programmer le film de Jonathan Demme 2 semaines avant celui de Michael Mann. Alors au milieu des années 80, après une éclatante réussite, encore sous influence du nouvel Hollywood, le solitaire, Michael Mann sort d'un échec cuisant avec La Forteresse Noire, ambitieux film fantastique gâché par un monstre en caoutchouc. Alors Dino De Laurentiis, le producteur, lui propose alors d'adapter le roman culte de Thomas Harris, Dragon Rouge, rebaptisé Manhunter, et sorti en France donc en 87 sous le titre Le sixième sens. Alors pour la petite histoire, William Friedkin fut approché pour livrer sa vision du roman de Thomas Harris, et paraît-il que Michael Mann lui aurait même proposé, donc au cinéaste de l'Exorciste, d'endosser le rôle du serial killer. Évidemment, Friedkin a refusé, et depuis, les deux fortes têtes ne s'adressent absolument plus la parole. Autre étrangeté, au moment où Mann engage contre l'avis de De Laurentiis un jeune acteur débutant, le fascinant William Petersen, William Friedkin termine le tournage de Police fédérale Los Angeles avec le même comédien, livrant un furieux polar urbain qui présente de nombreuses similitudes avec le film de Michael Mann sur le plan esthétique et thématique, pur produit des années 80, transcendé par le génie de la mise en scène et une vision très sombre de l'humanité. Alors, Will Graham, le héros du film, profiler du FBI, s'est retiré du métier, trop affecté par la proximité des tueurs qu'il traque, s'immisçant à l'intérieur de leur psyché. Il vit paisiblement avec sa femme et son fils, mais attiré par une pulsion irraisonnée, décide de reprendre sa fonction. Alors il part chasser un serial killer, surnommé donc la Dent Vislard, auteur déjà de 2 massacres de famille et qui n'agit que les soirs de pleine lune, créant ainsi une promiscuité, on va dire, avec une atmosphère qui a la lisière du surnaturel. Pour approfondir ses recherches, il va s'entretenir avec une vieille connaissance, Hannibal Lecter, et non Lecter, il est renommé Lecter, qu'il a envoyé derrière les barreaux lors de sa dernière enquête.
Vous voulez savoir s'il les choisit et comment, c'est ça? Je suis persuadé que vous avez une idée.
Pourquoi vous le dirais-je?
Vous aurez accès au dossier. Il y a aussi une autre raison.
Laquelle, je vous prie?
Je vous présume curieux de voir si vous êtes plus malin que le type recherché.
Mais vous impliquez qu'on est moins malin que celui qui vous prend?
Non. Je ne crois pas être plus intelligent que vous.
Pourtant, vous avez su me prendre.
Vous aviez un désavantage.
Quel désavantage?
La démence.
Vous êtes très bronzé. Vous avez l'œil vif. Plus du tout un regard de flic, désormais. Quant à votre lotion, n'est-elle pas du genre qu'un enfant choisirait, avec un navire sur l'étiquette? Inutile d'essayer de me convaincre par un appel à ma vanité intellectuelle.
Je n'essaie pas de vous convaincre. Vous ferez ce que vous voudrez.
Alors dès ses premières images intrusives, fascinantes, Michael Mann se réapproprie une esthétique convenue et commune, celle du clip, de la pub et du rock, à l'époque popularisée par le succès de MTV, pour créer de toutes pièces un univers glacé et glaçant, essentiellement tourné en décor naturel, laissant le soin au chef opérateur Dante Spinotti de sublimer par ses incessants jeux de lumière un récit classique. Même si Michael Mann puise dans un imaginaire narratif du thriller de consommation au milieu des années 80, le cinéma n'évoquait pas de manière aussi frontale la figure fascinante et repoussante du serial killer, et encore moins celle des profilers absents des écrans, et pour cause, il n'en existait que très peu. Alors d'une histoire sordide, Michael Mann en tire un splendide thriller vertigineux, dénué de la moindre trace d'humour et de distanciation, sur la frontière poreuse entre le bien et le mal, un cauchemar existentiel où un homme doit s'approcher au plus près des ténèbres pour découvrir la vérité. Michael Mann reprend tous les artifices clinquants de la série qu'il a créée, De flics à Miami, pour mieux les subvertir et les sublimer, conférant à son film une ambiance clinique et terrifiante, portant le maniérisme à un point de rupture. Alors comme dans les grands films de Fritz Lang, dont la figure omnisciente de Lecter rappelle celle du docteur Mabuse, Manhunter s'avère avant tout un grand film sur le mal qui nous ronge de l'intérieur, nous fascine et finit par séduire des êtres en souffrance prêts au pire crime contre l'humanité. Alors si Will Graham, le flic, suinte la peur de franchir la ligne rouge, Francis Dolloride, le serial killer, se révèle presque touchant lorsqu'il tombe sincèrement amoureux d'une jeune aveugle. En ce sens, cette œuvre charnière dans la carrière de Mann s'éloigne du roman pour se frotter au pur contorifique, alors non dénué d'émotion derrière sa froideur apparente, traversée de quelques flashs lumineux. Will Graham et sa famille, notamment sur le bateau, qui est dans une esthétique limite publicitaire, hein, avant de sombrer à nouveau vers les ténèbres entre rêve éveillé et cauchemar insidieux. Les 10 dernières minutes, hein, où là il y a vraiment de l'action, sublimée par Inanna Gada Davida de Iron Butterfly, annonce par la simple puissance cinétique du montage les chefs-d'œuvre à venir de Michael Mann que seront Hit et Miami Vice.
Merci Manu donc, pour ce retour dans les années 80. On va aussi en faire bien au travers de ce blind test qui me semble-t-il va être plutôt facile pour toi parce que tu as l'air de connaître Michael Mann sur le bout des doigts.
Oui, mais alors des fois avec les VF, on peut se tromper.
Oui, mais là je pense qu'il y a quelques bons indices. Voilà, chers auditeurs, 5 extraits. Il faut découvrir le titre de ces films. Premier extrait.
C'est le seul responsable et c'est toi qui vas raquer.
Tu lui réponds que sa chiotte, il peut aussi se la foutre dans le cul.
Arrêtez, c'est mon patron.
Et après ?
J'en ai besoin de ce job.
Ça, c'est ce que tu crois.
T'es toujours là, je te parle. Max, Max.
Il te filera pas un rond.
Qui c'est ?
Albert Ricardo, adjoint du procureur, client de ce taxi, et je vais te balancer au syndicat.
Doucement, on s'excite pas.
On s'excite pas ? Comment tu veux que je garde mon calme ? T'es en train d'essayer d'escroquer un travailleur. Tu sais pertinemment que ton assurance couvrira les frais, t'es en tout risque, t'auras pas un rond à sortir. Alors c'est quoi le but de la manœuvre, hein, tête de nœud ?
Écoutez, j'essayais seulement...
C'est à lui qu'il faut le dire. Dis à ton boss que c'est un gros con. Vas-y, t'es un gros con.
Fantasme pour bon nombre de salariés, c'est trouvé.
Collatéral avec Tom Cruise.
Et oui, voix française de Tom Cruise en l'occurrence. Donc un chauffeur de taxi, un tueur implacable, 5 cibles à éliminer, des agents des stupes et une équipe du FBI. 1,4 million d'entrées en France pour ce film. À noter que Michael Mann, de toute façon, est un habitué du box-office. Il dépasse allègrement le million de spectateurs avec ses films. Et c'est aussi le cas avec ce deuxième extrait.
Et vous faites quoi exactement dans la vie ?
Je suis John Dillinger, je braque des banques. Leur argent, c'est bien là-bas que les gens vont le mettre.
Pourquoi vous me le dites ? Je sais pas. Vous auriez pu inventer une histoire ?
J'ai pas envie de vous mentir à vous.
C'est une chose grave à dire à une fille qu'on connaît à peine.
Je vous connais.
Je ne peux pas en dire autant.
Ça a été trouvé.
C'est donc Public Enemy.
Film de 2009 avec Johnny Depp, Christian Bale et Marion Cotillard qu'on écoutait ici, en face de Johnny Depp. Alors, dans les années 1930, John Dillinger, qui s'est bien présenté, a trouvé sa vocation dans le braquage de banque et le FBI a bien fait de lui l'ennemi public numéro 1 et demande à Melvin Purvis, interprété par Christian Bale, de le traquer. 1,5 million d'entrées en France. Troisième extrait.
T'as l'intention de replonger ? Tu sais que j'en ai cravaté des mecs comme toi qui déconnaient volontairement pour retourner au mitard ? C'est pareil.
T'as pas dû en voir beaucoup, des paumés de ce genre.
J'en vois de toutes les couleurs.
Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine ?
Non, sûrement pas.
Alors ?
Les deux voix françaises sont bien respectées.
Oui, oui. Donc c'est Hit.
Oui, avec Robert De Niro et Al Pacino. Confrontation des personnages donc de Neil McAulay et Vincent Hanna, respectivement. Un chef d'équipe de braqueurs professionnels et un lieutenant de police. Les deux se livrent une lutte à distance et voient leur vie privée et professionnelle se lier inéluctablement. C'est le remake de LA Takedown, un téléfilm.
Qu'avait réalisé Michael Mann et qui comptait d'ailleurs en faire une série. Mais suite à l'échec, il a abandonné l'idée.
Eh oui, 1,4 million d'entrées en France. Encore un extrait.
Expliquez au major qu'il n'a rien à craindre de ce général marquis de Montcalm, de toute manière, et n'a donc guère besoin d'une milice coloniale, parce que les Français sont fort peu portés par nature à la guerre.
Il préfère s'adonner aux joies de la table et du sexe que d'aller se battre.
Ça a été trouvé.
Alors, c'est le dernier des Mohicans. Avec une curiosité, il y a Patrice Chéreau qui joue dans le film.
Oui. Je vais paumer ça. En tout cas, il y a Daniel Day-Lewis aussi. Adaptation cinématographique du roman du même nom de James Fenimore Cooper. Alors que la guerre fait rage entre Français et Anglais pour s'approprier les terres des Indiens, eh bien, trois hommes acceptent d'escorter les deux sœurs, donc les filles du colonel ou général, je ne sais plus, jusqu'à leur père, 1,2 million d'entrées. Dernier extrait de ce blind test.
Appel en Colombie.
Merde, c'est José Hierro.
Non, sans blague.
Ce type est lié aux autodéfenses unies de Colombie, l'extrême droite paramilitaire colombienne. Vous savez qui c'est, ces mecs-là ? On parle d'intégration verticale. Ils sont...
Quoi, tu veux dire qu'ils bandent du matin au soir ?
Non, ils cultivent, après ils traitent, ils produisent, ils exportent.
Je sais. Pour qui tu me prends ?
Non, tu sais pas. Ça leur file tous les droits. Un Marion négocie de trop, le gars c'est fini, on le revoit plus jamais. Ces gens-là, ils descendent tout ce qu'ils veulent.
Ça a été trouvé.
Et donc c'est Miami Vice, l'adaptation du feuilleton qu'il avait donc créé dans les années 80.
Eh oui, un film de 2006. Et donc, ensuite James, Sonny Crockett et Ricardo Tubbs, qui sont deux flics de la brigade des stupéfiants de la police de Miami et qui sont en guerre contre les gangs. Évidemment, 1,5 million d'entrées en France. Ainsi s'achève ce blind test. On en retrouvera un autre la semaine prochaine.
This is Cinerama.
Entre Romero et Carpenter version coréenne, voici la suite de Dernier train pour Busan, Peninsula. Et c'est Guillaume qui nous en parle.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement?
Oui. Cinerama.
Le monde devient philosophique.
T'as perdu la tête. Tu veux y retourner, toi?
Quatre ans après les événements du Dernier train pour Busan, l'Asie n'a toujours pas retrouvé les rails du bon chemin à suivre en cas d'apocalypse et Sang Ho-yeon persiste avec Peninsula. Alors que la zone infectieuse est gardée sous cloche, le réalisateur qui avait fait débuter cette histoire avec Seoul Station, donc un film d'animation, reprend le petit manuel de New York 97 de John Carpenter pour envoyer une escouade en terrain miné pour accomplir une mission chronométrée. Or, il n'y a pas que des créatures là-bas, mais aussi des survivants qui semblent tout aussi féroces. Dis-moi, Jamie, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?
Vous récupérez le bahut, vous revenez avec le pognon. C'est 2 500 000 dollars par tête, si vous revenez ici en vie.
Le réalisateur persiste et signe dans une saga qui n'en demandait pas tant. À vrai dire, le succès du Dernier train pour Busan était quand même très étonnant au vu de la qualité toute relative de l'ensemble. Des calques coréens de World War Z, il essayait de s'enorgueillir d'avoir un semblant de message social. On y avait des pistes de réflexion sur la lutte des classes et sur les liens qui unissent les gens entre eux, mais on sait tous qu'un bon film dit « de genre » est celui qui cache ses thématiques derrière son spectacle pour que les métaphores soient vraiment pertinentes. Le problème, en ayant des zombies ou infectés, c'est la mode depuis 28 jours plus tard, qui réagissent au son, c'est que le réalisateur a cru bon de se passer d'un visuel digne de ce nom. L'une des marques de la fabrique est donc son extrême laideur esthétique, et pour ce dernier opus en date, gare à ceux qui n'ont jamais touché une console de ces 15 dernières années. Car si les effets du Dernier train pour Busan s'arrêtaient à une horde numérique de zombies infectés, c'est comme ça que je vais les appeler, donc pour Peninsula, on vise plus haut, plus fort et plus moche. La moindre action du film se retrouve augmentée par des effets digitaux dans ce fameux but de toujours plus, mais qui n'arrive qu'à susciter la consternation face aux libertés prises avec les lois de la gravité et de la pesanteur. Alors, comprenons-nous bien, je n'ai rien contre l'invraisemblance propre au cinéma et au cinéma d'action en particulier. La suspension d'incrédulité, c'est même au centre du pacte fait avec le spectateur en tout début de film pour lui assurer le tour de piste le plus incroyable possible. Mais quand tout, je dis bien tout est retouché et qu'il n'y a aucune cascade en voiture live alors que plus de la moitié des scènes d'action se passent dans des véhicules, y a de quoi crier à l'arnaque. Donc, si vous étiez nostalgique de votre PlayStation 3 que vous avez revendu pour passer à la génération de consoles suivante, vous pouvez éventuellement y retrouver quelques réflexes de gamer, mais en l'état, on songe surtout au pauvre George Miller en train de se retourner dans sa future tombe. Dire que l'on pensait à un fou que nous étions, que son Mad Max Fury Road en 2015 permettrait plutôt un retour massif aux effets pratiques et à l'utilisation intelligente des nouvelles technologies pour un public se lassant des exploits impossibles des super-héros américains, c'est raté. C'est d'autant plus frustrant que cela vient d'un cinéma qui a depuis un certain nombre d'années un succès public mondial grandissant et qui est capable de bien plus d'originalité. Il n'y a qu'à penser au petit bijou qu'est le Snowpiercer, par exemple de Bong Joon-ho, pour rougir dans nos sièges tant l'adaptation de la BD française Transperce-Neige, elle arrivait à transcender plusieurs genres de la SF post-apocalyptico-western, et ce, avec l'ajout de cette saveur sud-coréenne qui fait bien défaut ici. Peninsula fait plus penser aux ersatz de succès hollywoodiens qui étaient diffusés en seconde partie de soirée sur TF1, les fameuses Hollywood Nights, le plaisir coupable du petit budget en moins. Il est à regretter de voir que ce cinéma-là subisse le même effet que le cinéma japonais au tout début du XXIe siècle. Le succès de films comme Ring ou Battle Royale avait fait cataloguer par la presse toute production asiatique comme étant un automatique chef-d'œuvre. Et ça avait entraîné une surexportation largement plus quantitative que qualitative, aboutissant à l'essoufflement de l'intérêt du public pour des films de plus en plus médiocres. Alors, vu qu'on est sympa, on a quand même envie de terminer sur une note positive. Donc il y a quand même 2-3 choses qui permettent de relativiser cette suite poussive. Déjà, le fait que Peninsula est un film qui s'assume. Ayant sûrement fait le tour des maigres prétentions sociales évoquées plus tôt du dernier train pour Busan, Sang Ho-yeon livre ici une pure série B qui n'a d'autre prétention que de divertir son public. C'est bien plus louable et honnête, car le récit est beaucoup plus recentré sur ce qu'il est vraiment, un actionneur bourrin. L'amateur averti y trouvera sans surprise les habituels emprunts au cinéma de George Romero, le pape des films de zombies, mais ici, plutôt que de voir une énième reprise de Dawn of the Dead, donc titré sobrement « Zombie » chez nous, c'est son brillant « Land of the Dead » de 2005 qui est cité avec son arène mélangeant zombies infectés et humains sur lesquels de bien mauvais bougres tiennent des paris sur celui qui va rester debout le plus longtemps possible. Et pour finir, un héros qui va revoir son trauma de la scène d'introduction réapparaître plus tard dans le film de manière assez efficace pour maintenir l'action jusqu'au final. Donc bon, tout dépendra de votre tolérance à ce qui s'apparente plus à un direct tour vidéo qu'à un vrai grand spectacle de cinéma.
Grimpe si tu veux vivre.
On part au coucher du soleil.
Peninsula a failli ne pas sortir finalement. Eh bien, il est sorti, il est en salle depuis le 21 octobre. C'est le cas aussi de Last Word. C'est la fin du monde, vu par Jonathan Nociter, connu pour sa série Mondovino. Et c'est toi, Manu, qui nous en parle.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
Très mal accueilli par une critique française assez assassine. Last Words, sélectionné donc au Festival de Cannes en 2020, ne mérite pas d'être relégué au rang de nanar intello et nombrilis, comme j'ai pu le lire dans la presse. Le sujet même du film s'avère passionnant. En 2086, la Terre est condamnée, la biodiversité a disparu, les routes sont asséchées, la végétation est absente, les animaux se font rares, les villes, alors là Paris en l'occurrence, ressemblent à des ruines. Rare survivant de cette catastrophe écologique, un jeune Africain sans nom se débrouille comme il peut pour survivre, accompagné de sa sœur enceinte. Alors après le décès de cette dernière, il retrouve des mystérieuses bandelettes transparentes ayant appartenu à des bobines de ciné et part donc à la recherche de la Cinémathèque de Bologne. Alors là, par un tour de passe-passe scénaristique quelque part arbitraire que je n'ai pas compris, ou alors j'ai zappé quelque chose. Alors à Bologne, une fois arrivé à Bologne, il fait la rencontre d'un vieil homme excentrique, ex-réalisateur, devenu gardien du temple du cinéma en ruine, où ne restent que des bouts de films précieusement sauvegardés. Alors ensemble, ils vont partir sur les routes, munis d'une caméra bricolée et de ce qu'il reste de la mémoire du 7e art. Ils vont atterrir donc dans la dernière communauté d'hommes et de femmes qui sont encore bien vivants. Alors adapté d'un roman de l'argentin Santiago Amigorena, qui s'appelait Mes derniers mots, Last Words n'est sans doute pas le grand film utile que l'on attendait, d'où la déception relative des critiques. Le film réparateur de tous les maux qui s'abattent sur nous, surtout en ce moment, mais il n'est pas non plus le pensum prétentieux que certains pointent du doigt. Si le film tombe à pic pendant la crise sanitaire, Nociter a commencé à travailler sur ce projet ambitieux en 2014, déclarant à l'époque qu'il s'agirait sans doute de son dernier film de fiction. En 23 ans, l'Américain émigré en Italie n'a réalisé depuis ses débuts fracassants avec Sunday en 97 seulement 4 films de fiction, surtout connus en France pour un documentaire sur le vin, Mondovino. Alors Jonathan Nociter glisse progressivement dans son nouveau film de la fable écologique particulièrement déprimante vers un post-apo apocalyptique, contemplatif et humaniste où les derniers moments de joie proviendraient des chutes de films projetés devant une poignée d'hommes et de femmes vivant leurs dernières heures. Alors les cinéphiles reconnaîtront en vrac des extraits de Métropolis, de Tarzan l'homme singe, de Sherlock Junior, de L'homme à la caméra et aussi du sens de la vie des Monty Python. Alors le discours naïf du cinéma comme dernier refuge d'une humanité à la dérive peut prêter parfois à sourire, mais Nociter insuffle un souffle à ce drôle d'objet agaçant et émouvant qui fétichise aussi le 7e art à travers la fabrication d'une caméra artisanale qui résiste à l'épreuve du temps. Alors autour du jeune Khalifa Touré, un débutant remarquable, comme souvent d'ailleurs, je trouve les débutants au cinéma, je ne sais pas pourquoi, c'est la grâce de la première fois. Donc ce débutant qui est vraiment remarquable, on retrouve aussi avec plaisir une poignée de comédiens connus, dont Nick Nolte, alors plus cabotin que jamais dans le rôle du vieux cinéaste, Stellan Skarsgård, échappé de l'univers de Lars von Trier, et puis Charlotte Rampling dans un inattendu contre-emploi, où elle se retrouve même enceinte, à l'âge de près de 70 ans à mon avis. Alors au rayon curiosité, il y a aussi Mariam Dabo, ex-James Bond girl, dans Permis de tuer, il me semble, qui fait une courte apparition. Alors poème erratique, pas toujours clair dans ses intentions, film d'errance traversé de fulgurances visuelles, notamment le flashback assez étonnant avec les cannibales, Last Words aborde sans doute la SF un peu de haut, mais n'en demeure pas moins un beau geste d'espoir et de cinéma, rappelant que même dans un monde qui vit ses derniers instants, les images du 7e art peuvent encore nous réconcilier. Alors je conseille aussi d'aller voir ce film, car il s'agit, comme je le disais, de la dernière fiction de Nociter, devenu depuis 9 ans agriculteur. Alors s'il revient au cinéma, ce ne sera pas du tout par le biais d'une fiction, mais comme il l'a déclaré, par un documentaire, ce qui me paraît logique, et je pense qu'il dit là c'est la vérité. Il ne s'appelle pas Luc Besson ou Soderbergh. On peut faire confiance à Nociter. Hein.
C'est une promesse. En tout cas, ce film fait partie de la sélection cannoise 2020 et il est en salle depuis le 21 octobre.
Au revoir.
Mais pour quelle raison ?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon ?
Qu'est-ce que vous racontez ?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est difficile de répondre,
comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie !
La semaine prochaine, Cinérama sera dans l'inconnu, mais nous aurons quand même le Premier ministre Jean Castex. Non, évidemment non, nous n'aurons pas le Premier ministre Jean Castex, mais nous aurons des producteurs, des réalisateurs, et puis des distributeurs qui nous parleront de la situation actuelle du cinéma.